Georges Niva. Bonjour Georges Niva, vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs de la Russie, vous êtes professeur honoraire à l'université de Genève, traducteur également de Solzhenitsyn, et on va entendre immédiatement la voix de Solzhenitsyn durant l'émission d'Apostrophe qui est restée mythique. C'était le 11 avril 1975.
J'étais privé des sources, des documents. Par conséquent, il fallait que je fasse quelque chose d'autre pour ne pas me perdre mon âme et perdre mes forces créatrices. Bien que je ne me sois jamais préparé une œuvre poétique, je me suis rendu compte que si j'allais mémoriser un certain nombre de vers, des poèmes, j'allais m'entraîner. Alors, je les écrivais, ou plutôt je les composais par petites portions de, mettons, une vingtaine de vers. Je les apprenais par cœur, et puis je brûlais ce que j'avais pu écrire, et quelques 12 000 vers se sont ainsi accumulés, ce qui n'est pas mal. Et je passais à peu près 10 jours par mois, simplement pour répéter cette quantité de vers que je gardais dans ma mémoire.
La voix d'Alexandre Solzhenitsyn, c'était au cours de cette émission d'Apostrophe, une émission au cours de laquelle il a notamment expliqué, Georges Niva, quelle était sa méthode de travail au moment de son internement en camp. Il faut rappeler qui était Solzhenitsyn pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le lire, pour ceux qui sont aujourd'hui trop jeune, rappelez peut-être que Solzhenitsyn est né en 1918 et mort en 2008. Et puis, rappelez pourquoi son œuvre a eu un tel retentissement, Georges Niva, à la fois en Russie, qui était alors l'Union soviétique, mais aussi en Occident.
Vous savez, je crois que la première des choses à vraiment dire et rappeler, pas seulement à ceux qui l'ont entendu et aux plus jeunes, c'est que en Europe, depuis Hugo, Zola, nous n'avions pas eu un écrivain qui était à la fois un lutteur de cette taille et un écrivain de cette taille. Parce que c'est un athlète à la fois de l'écriture et de la résistance. Alors, ces années de camp, lorsqu'il composait mentalement et qu'avec un chapelet, il mémorisait 10 000 vers d'un poème qu'il a appelé « Le long petit chemin », « Le chemin des forçats », ces années de camp l'ont formé. Avant, il était un soviétique marxiste romantique qui aimait la révolution, mais qui était simplement alarmé, inquiet du fait qu'il sentait des mensonges dans la propagande des années 1930, déjà, ce jeune homme sentait des mensonges, mais il était néanmoins un marxiste. Et alors, l'école du bagne, l'école du goulag a été pour lui fondamentale. Et il a dénoncé cette espèce de souterrain de la violence que avait créé vous savez, le grand rêve du 19e siècle, c'est le socialisme, le grand rêve du 19e siècle. Il l'a dénoncé et il a subi lui-même cette violence. Et tout a changé lorsque le petit récit de Ivan Denisovitch, il a, par un ami, réussi à le faire mettre sur la table du rédacteur en chef de la revue libérale de l'époque soviétique Novy Mir, Le Monde Nouveau, qui était dirigé par Alexandre Twardovsky. Twardovsky a été bouleversé par l'histoire de ce petit paysan qui résiste à la violence, dont on voit passer une journée depuis le réveil jusqu'au soir. Et il l'a fait lire à Khrushchev, c'est-à-dire au leader de l'Union soviétique. Sans l'aval, sans cette lecture qui a été faite à haute voix par son secrétaire, un certain Lebedev, à Khrushchev, eh bien, le destin de cet homme aurait été différent. Parce que vous voyez, du jour au lendemain, avec la publication de cette nouvelle, il a été mondialement connu. Ensuite, il a été à nouveau attaqué, parce que Khrushchev est tombé. Et il a dû reconquérir une sorte d'indépendance de parole. Et c'est à ce moment-là qu'il écrivait l'archipel du Goulag, c'est-à-dire plus qu'une journée, une encyclopédie du Goulag.
J'ai sous les yeux un extrait justement d'une journée d'Ivan Denisovitch qui raconte, comme vous l'avez dit, Georges Niva, la vie au camp d'un zec. Un zec, c'est un détenu au goulag. La vie donc d'Ivan Denisovitch Tchoukov. On explique quels sont les plaisirs de cet homme, les maigres plaisirs qu'il a, la manière dont la faim joue son rôle, dont le froid joue également son rôle. Et j'en lis un extrait. Il a eu bien de la chance aujourd'hui, on ne l'a pas flanqué au cachot, on n'a pas collé la brigade à la cité socialiste. Il s'est organisé une portion de cacha. La cacha, c'est de l'orge.
La
bouillie d'orge. Une portion de cacha supplémentaire au déjeuner. Le chef de brigade s'est bien débrouillé pour le décompte du travail. Tchoukov a monté son mur avec entrain. Il ne s'est pas fait piquer avec son égoïne à la fouille. Il s'est fait des suppléments avec César et il a acheté du tabac. Et finalement, il a été le plus fort. Il a résisté à la maladie. Une journée a passé sur quoi rien n'est venu jeter une ombre. Une journée presque heureuse. Georges Niva, l'histoire d'Ivan Denisovitch et l'histoire, évidemment, de celui qui l'a écrit, Alexandre Solzhenitsyn, elle percute le siècle russe. Solzhenitsyn, c'est un homme qui participe à la grande guerre patriotique. Il va se battre et puis, à la fin de cette guerre, de manière complètement imprudente, rétrospectivement, il va écrire à un copain qu'il doute de la propagande de Staline dans une lettre. Et c'est ça qui va le faire enfermer au goulag par le SMERCH. Le SMERCH, c'était ce service qui espionnait les soldats russes et qui a été responsable de dizaines de milliers de morts.
Oui, ça c'est le destin du créateur d'Ivan Denisovitch. Ivan Denisovitch, c'est un petit bonhomme, disons, appelons-le pour, j'ai parlé de Hugo, un gavroche, mais un gavroche de la campagne russe, et qui a été fait prisonnier par les Allemands. Il a vécu mille et un tourments, et pour récompense, il se retrouve enfermé dans un camp de concentration de son propre pays. Et les 24 heures vécues avec cet Ivan Denisovitch ont accompagné Alexandre Solzhenitsyn toute sa vie. Vous voyez, Archibald, l'un fait 100 pages, la nouvelle. L'autre fait 2500 pages, l'archipel du Goulag. Mais il est accompagné par Ivan Denisovitch, exactement comme Dante se fait accompagner par Virgile dans sa Divine Comédie.
Lyudmila Saraskina, vous êtes aujourd'hui dans ce studio, vous avez fait la biographie d'Alexandre Solzhenitsyn. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le style de Solzhenitsyn et quelle est sa place dans la littérature russe?
Merci beaucoup. Pour moi, Solzhenitsyn, c'est un homme qui représente l'envergure de Dostoïevski. Et ce n'est pas mes propres paroles, je reprends les paroles de Mikhail Bakhtin, un grand culturologue russe. Il était l'un des premiers à comparer Solzhenitsyn à la figure de Dostoïevski. Effectivement, c'est un lutteur, c'est un grand écrivain et visionnaire de l'avenir, qui a vu l'avenir comme personne.
Вот смотрите, за что Солженицына ругали, преследовали?
Qu'est-ce qu'on a reproché à Solzhenitsyn dans les années 60? On a reproché son audace, son courage de prendre parole en public, de s'opposer à la censure, de passer les textes à l'Occident, parce qu'il a considéré qu'être publié, ce n'est pas un crime. Et aujourd'hui, notre réalité lui donne raison. Regardez, nous sommes publiés à l'Occident, c'est normal, c'est une division de l'œuvre, alors qu'à l'époque, c'était considéré taxé de crime. Et donc, lui, il a vécu ça avec cette vision de l'avenir, et tout ce qu'il a pensé, tout est arrivé. Et je ne peux pas dire que c'est un prophète, parce que prophète, c'est un mot très complexe, avec des dimensions très complexes, mais je pourrais dire que Solzhenitsyn, c'est un grand visionnaire.
Il faut rappeler Lyudmila Saraskina, quel trésor d'énergie et d'invention Solzhenitsyn a dû faire pour continuer à écrire alors qu'il était surveillé quotidiennement par le KGB. Comment il a fait pour planquer ses manuscrits, pour les faire passer à l'Ouest?
Конечно, это все так. Но дело в том, что для него не было никакой другой жизни, никакой другой участи, чем быть писателем.
D'être écrivain.
Себя осознавал с самого раннего детства.
Et c'est pour ça, depuis son temps d'enfance, parce qu'il a commencé à écrire à 10 ans, il a publié sa nouvelle, il a écrit sa première nouvelle à 10 ans. Il considérait que d'être écrivain en Russie, c'est le meilleur sort possible.
Поэтому он
et c'est pour ça,
свои силы, все свое
et il a donné toute son énergie, toutes ses forces mentales, tout son courage à l'écriture.
Для того, чтобы писать,
et donc, pour écrire, il a essayé toujours de s'ingénuer et d'inventer tout ce qu'il pouvait.
La France a joué un rôle particulier dans la vie de Solzhenitsyn.
Франция?
La France, конечно, bien sûr.
Франция сыграла... Вообще, Франция из
всех стран la France,
мира была любимой
je pense
страной
que c'est le pays que Alexandre Alexandrovich a aimé le plus au monde, ce pays.
Он считал своей второй родиной.
Il est considéré comme sa deuxième patrie.
У него с Францией сразу сложились
il y avait beaucoup de liens qui le liaient à ce pays.
И
il y avait une sorte d'empathie.
Et, я считаю,
et le fait
мира.
Que
текст
son texte Archipel du Gulag a été publié en 1973 en France, c'était vraiment un cap. Et Nikita Alexievich Strouvé, qui l'a aidé pour publier ce texte, c'était un de ses grands amis jusqu'à dernier. Les jours de sa vie.
Солженицын,
à chaque intervention, autour de son œuvre, Archipel du Gulag, il rappelait que c'est grâce à la France que cette œuvre a été connue et grâce à Strouvé.
Et la France
a été le premier pays qui a traduit mon livre biographique sur Alexandre Солженицын. C'est pour ça que moi aussi, je suis très reconnaissante à la France que ce c'était le premier pays qui s'est intéressé à mon livre. Maintenant, il est traduit en italien et j'ai d'autres commandes pour la traduction, mais la France était la première.
Georges Niva, il faut rappeler la suite de la vie de Solzhenitsyn. Donc, on a dit qu'il publie dans Novi Mir une journée d'Ivan Denisovitch. C'est Khrouchtchev qui l'autorise à publier. Et puis, ensuite, fermeture du régime soviétique. Il devient donc un dissident, le plus connu des dissidents. Il est accusé, traqué. En 1974, il est emprisonné. Et puis là, finalement, le régime soviétique l'expulse. Et donc, il arrive en Occident. Et là, qu'est-ce qui se passe ?
Oui, vous savez, il y a toute une histoire du régime soviétique, parce que lorsque Khrouchtchev prend, dans le cadre, disons, de sa politique de déstalinisation, la décision de donner sa bénédiction à la publication d'un premier texte sur les camps de travaux forcés, les tout derniers, c'était en 1936, et c'était à l'éloge des camps de travail, et c'était dû à Gorki, qui était allé au camp de travail des îles de Solovki. C'est une décision extrême, et à ce moment-là, on peut penser que l'URSS va prendre un chemin nouveau, un chemin libérateur d'elle-même. Et c'est ce à quoi essaye d'œuvrer Alexandre Solzhenitsyn. Bon, il y a eu la chute de Khrouchtchev. Il y a eu la longue période de stagnation, ou si vous voulez, de glaciation triste avec Léonid Brejnev et le régime des vieillards en URSS. Et c'est à ce moment-là que se déroule la persécution extrêmement hypocrite, mais où il risquait toujours, si vous voulez, d'avoir un coup de parapluie comme le pape, ou bien...
Il faut rappeler là aussi que le coup de parapluie, le parapluie bulgare, c'était un parapluie avec un bout contenant du poison, et effectivement, Solzhenitsyn a échappé à la mort à deux reprises.
Il l'a eu pendant une excursion dans le Midi avec sa première femme. Et à ce moment-là, il a le courage d'écrire cet archipel du Goulag. Et c'est là qu'intervient la France, parce que ce manuscrit, si vous voulez, dont la détention valait des années de détention dans le Goulag par n'importe quel lecteur ensuite, ce manuscrit, il a réussi Bon, on pourrait longuement raconter son histoire. Je prépare avec un petit groupe d'initiateurs une grande exposition pour fêter le centenaire en novembre. Et nous allons montrer les 800 feuillets de l'archipel du Goulag, écrits de son écriture microscopique de clandestin. Nous allons montrer le tuyau de plomb dans lequel le manuscrit a été caché pendant 25 ans dans la terre estonienne. Parce qu'en Estonie, il était chez son ami Arnold Susi, qui était un compagnon de bagne pour lui, et un socialiste estonien qui lui a appris ce que c'était que le socialisme libre et pas le socialisme bolchevique et soviétique. Et puis, nous aurons également la table à caractère cyrillique avec laquelle ça a été composé clandestinement, secrètement à Paris. Bon, et ensuite, vous savez, le Politburo a délibéré plusieurs fois pour savoir ce qu'il allait faire avec l'auteur de l'archipel, avec cet insoumis extraordinaire. Bon, la décision, on l'a arrêté. Il ne savait pas s'il irait en Sibérie ou ailleurs. On l'a déchu de sa citoyenneté soviétique. On l'a envoyé en Allemagne où Heinrich Böll l'a accueilli bras ouverts.
Le grand romancier Heinrich Böll. Et là... Solzhenitsyn devient un enjeu, il devient tout d'abord un étendard pour les antitotalitaires, il devient aussi un repoussoir pour le Parti communiste, parce qu'il ne faut pas du tout imaginer qu'à son arrivée, Georges Niva, il a été accueilli comme un porteur de vérité, on l'a accusé
d'être un propagandiste. Bien sûr, mais pas tout à fait. Quand même, Pierre Dex a fait son mea culpa. Pierre Dex est devenu un homme qui a fait l'éloge de Solzhenitsyn. Aragon a eu beaucoup plus de mal, bien entendu.
Georges Marchais aussi, on n'a pas le temps d'écouter l'extrait de Georges Marchais que j'avais préparé, mais on ne peut pas dire.
Il a changé notre pays, il a changé tout son paysage. Il a changé des gens comme Philippe Solers, qui a dit « c'est le Dante de notre époque ». Alors Philippe Solers sortait de son époque maoïste.
Il y a malgré tout eu un certain nombre de résistances et puis on va le voir aux environs de 8h20, on va voir que Solzhenitsyn s'est mis à parler et là on s'est rendu compte que cet homme était à droite, parfois même très à droite. Il a tenu un discours à Harvard qui conspuait le matérialisme de l'Occident. Il a pris position en faveur de la Vendée. Et du coup, le visage de cet homme est devenu beaucoup plus contrasté. Parce que
pour moi, ça n'a pas de sens. Le situer à droite complexe. Ou à gauche, ça n'a rigoureusement pas de sens.
On en parlera aux environs de 8h20 pour voir effectivement quels sont les méandres de sa pensée et sa complexité. Puis on évoquera aussi les nouveaux dissidents dans le contexte, évidemment, que l'on connaît, qui est celui de l'élection présidentielle russe.